beaucoup d'amis qui sont veuves. Cela s'explique statistiquement du fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est la pyramide des âges. Et cela s'explique aussi par ma place dans l'Église, où les femmes sont en plus grand nombre que les hommes. La religion catholique est une religion de femmes. Son numéro un, c'est une femme, la Vierge Marie, bien loin devant le pape. La tradition n'a jamais considéré que Marie était veuve, alors même que Joseph avait disparu. Mais elle appliquait ce terme à l'Église, notamment dans l'interprétation de certaines paraboles, l'Église veuve, séparée de son époux, c'est un titre que Jésus lui-même s'est attribué. L'Église veuve de Jésus, qui vit dans l'espérance de lui être réunie un jour. C'est une image qui est parfois plus juste que celle du corps, où le Christ est présent, bien sûr. À chaque messe, nous croyons qu'il se rend sacramentellement présent, même si nous-mêmes, nous ne lui sommes pas présents. L'Église veuve dit ce décalage que nous pouvons ressentir de la présence même du Christ, parfois dans les affaires qui abîment, qui sont totalement contraires à la réalité même de l'Église. J'ai beaucoup d'amis veuves dont les situations varient évidemment suivant qu'elles ont des enfants ou pas, que ces enfants sont grands ou non, qu'elles sont par le fait même belle-mère voire grand-mère. La variable critère, ce n'est pas tellement une question d'âge, c'est la diversité et surtout la complexité des relations familiales. C'est l'environnement familial. C'est ce que les Sadducéens, dans leur question, négligent, oublient de rappeler à propos de ce passage de la loi de Moïse, ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Ce qu'ils oublient de rappeler, c'est le champ d'application très précis de cette loi, qui est une vie commune. Si des frères vivent ensemble, c'est ce que dit le texte du Deutéronome au chapitre 25, si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vient à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un homme d'une famille étrangère, elle aura ce qu'on appelle donc le lévir, un des frères qui viendra, qui lui donnera un premier-né, qui reprendra le nom du frère défunt. Si des frères demeurent ensemble, vivre ensemble, c'est une question de tous les temps, probablement plus que jamais d'actualité. Vivre ensemble, c'est pas la peine de parler d'écologie quand on n'est même pas capable de vivre ensemble. C'est aujourd'hui une façon de prendre les choses à l'envers, de détourner la politique quand on se focalise sur l'environnement, sur la nature et qu'on oublie l'essentiel qui sont nos relations entre nous. C'est ça la politique, la relation des hommes entre eux. En n'oubliant pas qu'il faut les nourrir, les soigner, les éduquer, les aimer. Et ce n'est pas seulement l'affaire de notre quotidien. C'est le problème de la résurrection. Comment on va faire avec les personnes qu'on ne veut plus voir? Mon plus mauvais souvenir de l'année, on n'est pas encore fin décembre, donc je dis pour l'instant. C'est une messe d'obsèques où la veuve, qui était la seconde femme du défunt, était brouillée avec les enfants du premier lit. Il faut dire que le défunt, le père, avait fait tout ce qu'il fallait pour ça. Mais elle était si remontée contre la première femme, qui pourtant était décédée, qu'elle ne voulait même pas que son nom, son prénom soit prononcé. Minimum de respect pour les enfants, j'ai évidemment dit, évoqué le nom au mémento des défunts. Depuis, la veuve ne met plus les pieds dans cette église. Comment fera-t-on à la résurrection, dans la vie éternelle, pour vivre ensemble, pour vivre en frères, avec ceux qui nous ont fait souffrir? Ceux qui nous ont fait souffrir, comment on fera? On oubliera? On s'évitera? On pardonnera? Dans le sujet soumis à Jésus par les Sadducéens, ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Il faut rappeler qu'il y a deux cas, deux histoires de levirat de cette loi, deux applications de cette loi dans l'Ancien Testament. Ils sont tout à fait significatifs parce qu'ils sont défaillants. Ils n'aboutissent pas, sont des échecs. Et ils sont d'autant plus significatifs que dans les deux cas, chaque fois, les deux femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Elles font partie, ces deux femmes font partie des quatre femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus au début de l'évangile selon Matthieu. La première s'appelle Tamar, c'est la belle-fille de Judas, qui est un des fils de Jacob. Judas qui a donné le nom Judée, une partie d'Israël. Le mari de Tamar meurt. Et donc, on fait appel au premier frère, Onan, disons qu'il se débine. Il meurt également. Que fait le père ? Il chasse Tamar. Judas chasse Tamar parce qu'il pense qu'elle porte la poisse. Il reste un frère, mais il faut surtout le protéger. Et il la chasse, il l'expulse. C'est une histoire qui est très curieusement placée dans le livre de la Genèse, parce qu'elle vient interrompre l'histoire de Joseph. C'est au chapitre 38, vous pouvez le voir ça. Et pourquoi elle vient l'interrompre ? Pour révéler le cœur malade de Judas, celui qui justement, c'est lui qui a proposé de vendre Jacob, de vendre Joseph. C'est lui, vous pourrez relire ça, et en particulier la revanche de Tamar, comment elle obtient justice. Et puis il y a un deuxième cas, qu'on appelle de levirat, qui se trouve dans un petit livre qu'on appelle le livre de Ruth, situé entre le livre des juges et le livre de Samuel. Et davantage que de Ruth, même s'il donne son nom au livre, c'est l'histoire de Noémie, la belle-mère. Noémie, en hébreu, ça veut dire « ma douceur ». Noémie devient veuve, elle perd ses deux fils, donc le mari de Ruth, et elle dit, elle ne veut plus être appelée Noémie. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire mon amertume. Car le Seigneur m'a rempli d'amertume. Pourquoi m'appeler Noémie ma douceur alors que le Seigneur m'a rendue si malheureuse ? Une de mes amies veuves m'a dit son amertume. Son amertume de se voir appelée veuve. Pourquoi est-ce que je serais désignée ainsi ? Pourquoi on parlerait de moi comme ça ? Elle me demande, ravivez ma douleur. Et en plus, quand je viens à la messe, il est tout le temps question de veuve dans les lectures. Elle fait partie, si je puis dire, du deuxième groupe de veuves dont les enfants sont encore adolescents, encore jeunes. Et elle me dit, comme d'autres, la difficulté de les élever sans avoir leur père à ses côtés pour prendre ensemble des décisions, pour discuter des attitudes à adopter, de ce qui convient. Et elle voit très exactement ce que notre époque dénie, la nécessité d'un père, la nécessité pour les enfants d'avoir, de pouvoir s'ajuster à une figure de père, sans compter les questions qui peuvent être parfois pénibles sur le sens de cette injustice, sur le rôle de Dieu. Il y a une de mes protégées qui est célibataire, parce que je ne connais pas que des veuves, une célibataire qui vient d'être très secouée par plusieurs déceptions amoureuses, et elle est venue me voir pour me demander mon avis sur l'idée qu'elle avait maintenant de faire un enfant toute seule. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, au moins de l'élever toute seule. Je lui ai rappelé la règle d'or, de ne pas faire aux enfants ce que vous n'auriez pas voulu vivre. Est-ce que tu aurais voulu que ta mère te fasse toute seule, t'élève toute seule ? Est-ce que tu aurais voulu ne pas avoir de père, quels que soient les griefs que tu peux encore avoir contre lui ? Et puis, si tu as un enfant toute seule, qui va lui permettre de grandir, de s'élever, de grandir en dehors de toi, d'empêcher une relation fusionnelle, de le faire grandir dans la différence ? Ce n'est pas du tout la même chose d'être orphelin de père, mais qui a existé, dont on peut lui parler. Alors dans la deuxième histoire, celle de Ruth et Noémie, le levirat, cet aspect de la loi, révèle son vrai visage. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de susciter une descendance, comme disent les Sadducéens, et vous reconnaîtrez le mot « susciter, ressusciter », comme si c'était une raison pour avoir des enfants. Mais la vraie raison, c'est de protéger un héritage, de protéger des biens. En un temps où les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, ou à une ou deux exceptions de près dans l'Ancien Testament, les femmes n'héritaient pas. Et il suffit de voir la façon dont les Sadducéens parlent de cette femme comme d'une marchandise qu'ils font passer d'un frère à l'autre sans lui demander son avis. La réponse de Jésus commence par mettre hommes et femmes sur un plan d'égalité de droit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Ils se marient et elles sont mariées. Hommes et femmes, il les créa. Et, poursuit-il, cette relation conjugale n'a rien à voir avec le royaume à venir, parce que révèle la question des Sadducéens ? Elle vise moins le lien des époux que la question du soutien financier. Leur question, cette femme-là, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse ? Il faut traduire. Lequel devra l'entretenir ? C'est ça que ça veut dire. C'est toute la différence entre le mariage religieux et le mariage civil. Les articles de loi qui sont lus à la mairie, évidemment, parlent de respect, de fidélité, soulignent les droits et devoirs des époux, mais en particulier en matière de secours, d'assistance, de contribution aux charges. Je comprends que les Sadducéens ne soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection si la vie se réduit à cela. Je comprends qu'on ne croit pas à la résurrection si l'argent passe avant. Il y a une autre de mes amies veuves qui m'a envoyé l'autre jour un texto, je vous le lis. « Tu m'as dit que Dieu ne nous donnait pas des épreuves, mais qu'il nous accompagnait dans les épreuves. » Ok. Après, je lis que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ces épreuves font-elles partie de ce plan ? Comment avoir confiance en son plan et découvrir de quoi est fait ce plan ? Est-ce que tu sais, toi, une partie de son plan pour ta vie ? Et elle est finie, je t'assure que je n'ai rien fumé. La question est pourtant bonne, juste. Contempler la Trinité, entrer dans le mystère divin, doit nous amener à distinguer ce qui est la volonté du Père, ce que nous prions chaque fois dans notre Père, la volonté du Père, qui est notre sanctification, que nous devenions des saints, que nous participions à la vie divine. La volonté du Père, d'une part, de ce que nous appelons le plan de Dieu, qui est en réalité le plan de salut de Dieu, le plan de salut de l'unique sauveur, le Christ. Et enfin, la mission que chacun reçoit de l'Esprit et dans l'Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, volonté, plan, mission. Et le mariage en est ainsi l'archétype qui vise à la sanctification des époux, pour autant qu'ils se mettent à la suite du Christ et à l'écoute de l'Esprit. Et ce n'est qu'ainsi que cette réalité, qui est d'abord une réalité naturelle, devient un sacrement, le sacrement du royaume à venir. Je pense à ce veuf que j'ai rencontré cette année, qui me disait que depuis la mort de sa femme, avec qui il a vécu 10 ans de bonheur absolu, depuis la mort de sa femme, il n'a plus peur de la mort. Une partie de moi-même, c'est ce qu'il m'a dit, une partie de moi-même est partie avec elle et se trouve déjà dans l'éternité. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Nous vivons pour lui, pour nous retrouver auprès de lui, dans l'amour qu'il a pour chacun de nous et qu'il veut que nous vivions entre nous. Mais moi aussi, pour chaque personne que j'ai aimée, qui est partie, pour chaque personne que j'espère à présent en Dieu, je peux dire, grâce au Christ, une partie de moi est auprès de lui.